Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, bienvenue dans le second cas, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un sacré bout de temps, même moi, je n'étais pas né, c'est vous dire, ce jour dans 24 notes secondes, nous allons évoquer la carrière d'un réalisateur américain, même s'il ne l'était pas à sa naissance, le dénommé Fred Zinnemann. Je consulte sa fiche par avance pour prendre quelques infos. Et en fait, le gars n'a tourné qu'une douzaine de films en 40 ans. C'est quand même assez peu pour un réalisateur américain. Fred Zinnemann, je vous la fais courte, mais quand même, était né à Vienne, en Autriche, quelque part en avril 1907. Il étudie le violon, se découvre peu doué, voit les rapaces d'Eric von Stroheim au cinéma et décide que c'est ça qu'il veut faire. Effectivement, on peut comprendre quand on voit les rapaces d'Eric von Stroheim, on se dit « Ah bah oui, moi je veux faire du cinéma ». Il quitte l'Autriche, il part à Paris, puis à Berlin, puis ensuite aux États-Unis, quelque part dans les années 30. Donc il ne fait pas partie de cette cohorte de cinéastes et autres artistes qui, à l'arrivée au pouvoir du parti nazi en Autriche, ex-Autriche bientôt, et en Allemagne, eh bien, quitteront leur pays natal pour Hollywood. En fait, lui arrive à Hollywood dès le début des années 30. Il a un parcours riche et même très riche, puisqu'on le voit notamment assistant du grand documentariste Robert Flaherty, l'auteur de Tabou, de Louisiana Story et de quelques autres. Il tourne des courts-métrages et puis en 1934, il tourne son premier long-métrage, Les Révoltés d'Alvarado, Redes, je ne sais pas trop, je ne l'ai pas vu. On va écouter un extrait de son quatrième long-métrage, c'est déjà pas mal, dans les années 30-40, il y a beaucoup moins de musique de films disponibles qu'ensuite. Un film donc tourné en 1944 qui s'appelle La Septième Croix, dont le héros est rien moins que Spencer Tracy. Alors je vous en dirai quelques mots, mais j'ai déjà été assez bavard. La musique de ce film, La Septième Croix, elle est signée de Roy Webb. On en écoute un extrait dans 24 notes secondes. Voilà un court extrait de la bande originale de La Septième Croix, The Seventh Cross, un film de Fred Zinnemann, donc tourné en 1944. Alors, 1944, évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est l'époque où les États-Unis sont entrés en guerre depuis 3 ans déjà, et du coup, eh bien, Hollywood contribue très largement à faire la machine à propagande en tournant des films patriotiques, et en l'espèce, celui-là est consacré à l'évasion en 1936, donc à après l'arrivée au pouvoir des nazis, mais avant le début de la Seconde Guerre mondiale, à l'évasion d'un camp de concentration, et non pas d'extermination, de quelques prisonniers politiques, dont bien sûr Spencer Tracy, qui est le héros du film. Alors évidemment, comme beaucoup de films de cette époque, il y a beaucoup plus de propagande que les crédibilités, et évidemment aussi tout ça est tourné aux États-Unis, donc là encore, la crédibilité, je dirais, factuelle de la chose est des plus ténue, mais enfin, ce n'est pas le propos. Et donc, à sa manière, Hollywood contribue à l'effort de guerre. Signalons, juste en passant, tout à l'heure, j'ai évoqué les artistes qui avaient fui le régime nazi. Eh bien, c'était le cas du directeur de la photographie de ce film, le grand Karl Freund, qui ensuite, d'ailleurs, tournera lui-même quelques petits films d'épouvante ou d'horreur. On va passer à un second extrait, donc à une seconde bande originale tournée par, d'un film tourné par Fred Zinnemann. Alors là, Fred Zinnemann aura connu trois grands films pendant sa courte et, je l'ai dit, succincte carrière. Mais Le train sifflera trois fois, un film tourné en 1952 avec Gary Cooper et Grace Kelly. Eh bien, Le train sifflera trois fois figure sans conteste parmi les chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Alors, la musique, vous allez forcément la reconnaître, ou alors ne revenez pas sur 24 notes secondes. Et puis, eh bien, le propos, c'est un propos assez généreux qui flirtait avec le maccartisme, puisque le scénariste du film, Karl Forman, en était victime. L'histoire d'un shérif qui se dresse contre les méchants et qui finit par... Ah ben non, je ne vous le dis pas, je ne vais pas divulgâcher si vous ne l'avez pas vu. Bref, une histoire peut-être un peu lénifiante, mais portée avec quelle maestria par Gary Cooper. Absolument, que dire ? Gary Cooperesque, on va dire ça comme ça, avec à ses côtés la douce Grace Kelly qui, avant de rencontrer le prince appelé Araignée, c'est drôle, eh bien avant de rencontrer, a quand même tourné quelques films. On se demande vraiment pourquoi elle a abandonné sa carrière pour ça. Mais bon, les femmes. Allez, on écoute un extrait de la bande originale du film. Elle est signée de Dimitri Tiomkin. Ça s'appelle, ah j'ai oublié de le préciser, High Noon en anglais, puisqu'en fait les tueurs doivent arriver par le train de midi, High Noon. Mais le train, il sifflera trois fois dans 24 notes secondes.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. A coward, a craven coward, a liar coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair beauty. Look at that big hand move along near in High Noon. He made a vow while in the state's prison, thought it would be my life or his. And I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving until I shoot Frank Miller dead. Wait long, wait long, wait long.
Do not forsake me, oh my darling, la chanson fétiche, fameuse du train sifflera trois fois, un film de Fred Zinnemann. Tourné en 1952, une musique de Dimitri Tiomkin, mais alors pas du tout Dimitri Tiomkinesque pour rester dans mes comparaisons. Pas de flonflon, pas de fanfare, pas d'orchestre de 150 personnes, juste des percussions et puis une guitare et une voix. J'avoue que j'ai honte, mais je ne sais pas de qui il s'agit pour la voix. Et puis, eh bien, une chanson qui contribua très largement au succès, ce qui au départ, bon, il y avait quand même Gary Cooper, ce qui au départ était un petit western progressiste. J'ai oublié de citer parmi les responsables de la chose Stanley Kramer. Stanley Kramer qui fut un producteur, puis un réalisateur extrêmement courageux, ce qu'on appelait à l'époque, ça ne faisait pas rire, un progressiste américain. Il tourna notamment lui-même le Devine qui vient dîner ce soir avec Sidney Poitier, un des premiers films sur les mariages interraciaux. Pour ce film, Gary Cooper obtint son deuxième Oscar. Évidemment, je ne me souviens plus pour lequel il obtint le premier. C'était plus que mérité. Le film obtint un bon succès. Je voulais aussi dire qu'avant ce film, eh bien, Fred Zinnemann avait ajouté à sa filmographie Les Anges Marqués, The Search, en 1947, avec Montgomery Clift, l'histoire assez tourmentée qui se passait quelque part en Allemagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était des hommes, en 1950, qui abordaient de façon très juste, en fait, le sort, justement, des anciens soldats qui avaient parfois du mal à se reconvertir à la vie civile. Ce ne fut pas le seul film consacré au sujet, mais ce fut certainement l'un des plus justes. Bref, un réalisateur assez parcimonieux, mais toujours magistral. Et magistral, il l'aura été aussi l'année suivante. Alors, parce que j'ai dit qu'il y avait trois films qui ont compté dans sa carrière. From Here to Eternity, Tant qu'il y aura des hommes, en fait partie. Il y a Deborah Kerr, il y avait Frank Sinatra qui échangeait un baiser. Alors, si on peut appeler ça un baiser, parce que si ça, c'est un baiser, franchement, je ne sais pas ce que sont les autres choses sur une plage, tous les deux mouillés par la pluie, les vagues, excusez-moi, c'est l'émotion qui revient, une scène fameuse. Il y avait aussi Frank Sinatra qui obtint, il me semble-t-il, un Oscar du second rôle et qui s'imposa donc comme acteur, puisqu'on disait « Ah, Frank Sinatra, oh oui, il joue aussi ». Eh bien si, Frank Sinatra, c'était aussi un très grand acteur. Et donc, Tant qu'il y aura des hommes, fut peut-être le plus gros succès de Fred Zinnemann, un film consacré à l'attaque de Pearl Harbor. Enfin, quelque part comme ça. On ne va pas écouter un extrait de cette bande originale, on va écouter quelque chose d'un peu plus entraînant, il faut le reconnaître, dans un style un peu différent de tout ce que je viens d'évoquer, puisqu'en 1955, eh bien, Fred Zinnemann, qui est un réalisateur américain, donc a priori sait tout faire, les westerns et aussi les comédies musicales, puisque Oklahoma, c'est l'adaptation comédie musicale, mais j'hésite toujours sur le terme comédie musicale transposé en français, c'est un musical. C'est un peu différent de ce que nous, on entend par comédie musicale si on parle de Notre-Dame de Paris et des Misérables. Donc, un musical d'Oscar Hammerstein II et de Richard Rodgers qui se consacre donc à la découverte de l'Oklahoma quelque part à la fin du 19e siècle. Dans les rôles principaux, pratiquement que des inconnus. Il y a aussi Rod Steiger qui fait une petite apparition. On écoute un extrait de cette bande originale, Oklahoma, avec un point d'exclamation dans 24 notes secondes.
There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. All the cattle are standing like statues. All the cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going. All the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. And old weeping willow is laughing at me. Oh, what a beautiful morning.
pas, c'est du musical, un extrait de la bande originale de Oklahoma, un film de Fred Zinnemann tourné en 1955. Alors c'est le premier film tourné en 70 mm Todd AO, c'est-à-dire un très très grand format, façon cinémascope, même s'il était aussi distribué en cinémascope, et même si le cinémascope, lui, n'est que du 35 mm, autant dire qu'on avait affaire, pardonnez-moi, à du grand spectacle, avec donc des chansons qui portent. Il faut dire que c'est du musical, donc ça veut dire qu'au départ c'est sur scène, et qu'il faut que, comme on dit, le spectateur du dernier rang en ait pour son argent aussi bien que celui qui a payé une place très chère devant. Et bien c'était le cas pour ce film, on ne peut pas dire que ce soit un des grands chefs-d'œuvre du musical ou de la comédie musicale à l'américaine. C'est sûr que Minnelli, Stanley Donen, Gene Kelly et quelques autres ont fait mieux, mais ma foi, c'était typiquement américain. Et alors, si on veut une petite anecdote, le personnage interprété par Rod Steiger, que j'ai évoqué tout à l'heure, s'appelle Judd, J-U-D, et en fait c'est apparemment lui qui a été à l'origine du titre de la chanson des Beatles, Hey Jude. Ne me demandez pas pourquoi, apparemment Paul McCartney, qui est l'auteur de la chanson et qui voulait soutenir, je raconte tout, Julian Lennon, le fils de John, que celui-ci était en train de quitter pour... Alors après, ça dépend des versions. L'abominable ou la géniale Yoko Ono, eh bien, Paul McCartney écrivit cette chanson. Au départ, il l'avait appelée Hey Jude, Julian, et puis après, il l'a appelée Hey Jude. Ma foi, à quoi ça tient? Enfin, quand même, Hey Jude, c'est quand même quelque chose. Et à vrai dire, c'est plutôt mieux qu'Oklahoma. Allez, on reste sur Fred Zinnemann, on reste sur sa carrière des plus éclectiques, et on va le prouver, puisqu'on va écouter maintenant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1959, un film intitulé en anglais « The Nun's Story », c'est-à-dire « L'histoire de la nonne », et en français... C'est plus joli, je trouve, en français, au risque de se perdre. Un film interprété, alors là, forcément, il y a un petit silence, par Audrey Hepburn. Alors peut-être que les très, très grands fidèles de 24 notes secondes savent qu'Audrey Hepburn est, que dire, un autre très, très grand silence, la chérie de la personne qui, en ce moment, vous parle. Audrey est toujours à mes côtés, elle est penchée là, sur mon épaule gauche, avec ses petites ailes, puisque c'était déjà un ange quand elle a daigné faire un passage, hélas, trop bref sur Terre. Maintenant, c'est à nouveau un ange. Audrey Hepburn, donc, qui est l'interprète principale du film, dans le rôle de Gabrielle Vandermal, alias Sœur Luc. Donc, l'histoire, eh bien, d'une jeune femme qui décide d'entrer dans un couvent à Bruges et qui apprend donc la vie religieuse. Le film est quand même assez bienvenu. Il est inspiré d'un roman de Catherine Holm, de laquelle j'avoue, j'entends tout. Il y a, non pas un garçon, mais il y a un personnage masculin principal qui est interprété dans le film par Peter Finch, après que Yves Montand et Gérard Philippe, rien moins, eurent refusé le rôle. J'avoue que voir à l'écran Gérard Philippe et Audrey Hepburn aurait été un très grand plaisir, qui me ménage à nouveau un petit silence. Mais après, on arrête avec les petits silences et on écoute un extrait de la bande originale de ce film. En plus, elle est signée du grand, du très grand, même si un peu méconnu, Franz Waxman, au risque de se perdre. Oh, que c'est beau. Dans 24 notes, second. La très belle partition de Franz, Waxman pour The Nun Story, au risque de se perdre en français. Un film de Fred Zinnemann tourné en 1959 avec Audrey Hepburn dans le rôle principal, ô combien, parce que le film était assez long et que Audrey quittait rarement l'affiche. Audrey, et ce n'est pas un hasard, consacra les dernières années de sa vie, après avoir renoncé au cinéma, à se dépenser sans compter pour l'UNICEF en tant qu'ambassadrice spéciale à la fin des années 90. Et bien, c'est largement, apparemment, mais c'était Audrey, c'est largement grâce à ce film et à, je dirais, au parcours exemplaire de Gabriel van der Mal, le personnage principal de ce film, qu'elle fut poussée à s'engager directement sur le plan humanitaire. Mais je le dis, sans doute était-ce déjà, je dirais, en elle, puisque Audrey avait eu une vie et une jeunesse assez difficile. Je sens que l'émission va passer sur Audrey, mais on ne peut pas, Audrey, on ne peut pas. Et de toute façon, je ne veux pas. On va rester donc avec Fred Zinnemann, qui était notre héros de ce jour. Alors Fred Zinnemann, je vous l'ai dit, a eu trois grands films pendant sa carrière. Donc les deux premiers, on a écouté un extrait de la bande originale du premier, Le train sifflera trois fois. On a esquivé le second. Alors le second, je voulais effectivement, après vérification, Frank Sinatra obtient bien, grâce à ce film, l'Oscar du meilleur second rôle. Mais il faut dire qu'en 1954, Tant qu'il y aura des hommes, From Here to Eternity obtint 7 Oscars. Donc vous voyez, c'était quand même le film de l'année. Et donc le deuxième film pour lequel Fred Zinnemann obtint l'Oscar, eh bien, ce fut en 1966, Un homme pour l'éternité. Alors on ne va pas écouter un extrait de la bande originale de ce film, un film qui racontait les démêlés entre Henri VIII et Thomas More, Sir Thomas More, le fameux auteur de L'Utopie, un ouvrage que je conseille à tous ceux qui veulent un peu, comment dire, se rafraîchir l'esprit et aborder l'avenir, ou ce qu'il en reste, avec un peu d'optimisme. Et Sir Thomas More, eh bien, c'était alors évidemment le film inspiré du scénario de Robert Bolt, en faisait un héros, mais c'en était un, vraiment un homme d'une grande dignité et qui d'ailleurs mourut pour ses convictions. Puisque pour vous le faire court, Henri VIII souhaitait qu'il approuve son divorce d'avec Anne Boleyn pour pouvoir épouser Catherine d'Aragon. Et bien Thomas More, qui estimait qu'il n'avait pas à le faire, eh bien, le paya de sa vie, ce qui n'empêcha pas, évidemment, Henri VIII de divorcer. Non, il voulait divorcer de Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. C'est un peu compliqué avec Henri VIII. Je vous rappelle qu'il a eu un sacré paquet de femmes. Et ma foi, ben, il y parvint à ses fins. Et dans le mouvement, d'ailleurs, il créa l'église anglicane. Mais ceci est une autre histoire. On va écouter un extrait d'une autre bande originale signée de Georges Delerue. C'est pour ça que j'ai un peu moins de scrupules à vous priver de celle de Un homme pour l'éternité. Alors là encore, quelque chose de tout à fait différent. Un film tourné en 1973, intitulé Chacal, et qui racontait, eh bien, tout simplement, l'attentat contre le général de Gaulle monté par l'OAS, qui évidemment, comme l'on sait, échoua. Et peut-être les vrais gaullistes se souviendront que dans la voiture du général de Gaulle, une déesse évidemment, il y avait son gendre, dont le nom m'échappe, et qui lui dit « Mon général, baissez-vous ». Et ensuite, De Gaulle, qui avait la dent dure, dit « C'est peut-être la seule chose intelligente qu'il ait prononcée de toute sa vie ». Ah, précisément, ce général. Tout était inspiré d'un roman de Frédéric Forsyth. Bon, le résultat était un peu curieux. Enfin, il y avait quand même des Français qui jouaient des rôles de Français, c'est déjà ça. Le président, je cherche le rôle du président, était incarné par Adrien Quella-Legrand. Je ne vois pas du tout qui c'est, ma foi. Enfin, on le voyait peu dans le film, qui était surtout consacré donc au complot et au chacal, interprété par le beau Edouard Fox. On va écouter un extrait de cette bande originale. Comme je vous l'ai dit, elle est signée de Georges Delerue. Chacal, dans 24 notes secondes. Thank you. Zinman nous aura quittés à Londres le 14 mars 1997. Rest in peace. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.